Lu et approuvé.
Ça serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès évidemment, l'âge de 7 évidemment. Ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non, on n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Tandis qu'il marchait dans Regent's Park, le long d'une allée qu'il choisissait toujours entre toutes, Jasper Gwine eut soudain la sensation limpide que ce qu'il faisait chaque jour pour gagner sa vie ne lui convenait plus. Plusieurs fois, cette pensée l'avait déjà effleurée, mais jamais avec la même netteté ni la même agilité. Ainsi, de retour chez lui, il se mit à écrire un article qu'il imprima, glissa dans une enveloppe pour ensuite aller le déposer personnellement, traversant toute la ville, à la rédaction du Guardian. Ils le connaissaient. Occasionnellement, il collaborait avec eux. Il demanda s'il était possible d'attendre une semaine avant de publier son papier. Ce dernier consistait en une liste de 52 choses que Jasper Gwine se promettait de ne plus jamais faire. La première était d'écrire des articles pour The Guardian. La 13e, d'aller parler devant des classes en prenant un air sûr de lui. La 31e, de se faire photographier le menton dans la main, songeur. La 47e, de se forcer à être poli avec des collègues qui en vérité le méprisaient. La dernière était d'écrire des livres. D'une certaine manière, elle éteignait la vague lueur d'espoir que l'avant-dernière pouvait avoir laissée, publier des livres. Il faut dire qu'à ce moment-là, Jasper Gwine était un écrivain plutôt à la mode en Angleterre, et discrètement connu à l'étranger. Il avait débuté 12 ans auparavant avec un thriller situé dans la campagne galloise en plein thatcherisme, une affaire de mystérieuse disparition. 3 ans plus tard, il avait publié un court roman sur l'histoire de deux sœurs qui décidèrent de ne plus se voir. À travers une centaine de pages, elles tentent de réaliser leur modeste désir, toutefois la chose s'avère impossible. Le livre se termine sur une scène magistrale au bout d'une jetée, en hiver. À part un petit essai sur Shatterstone et 2 nouvelles publiées dans diverses anthologies, l'œuvre de Jasper Gwine s'achevait avec un 3e roman de 500 pages. La placide confession d'un ancien champion olympique d'escrime, ex-capitaine de marine, ex-animateur de programmes radiophoniques. Il était écrit à la première personne et s'intitulait « Tout feu éteint ». Il commençait par cette phrase. « Souvent j'ai réfléchi à ce qu'on sème et à ce que l'on récolte ». Comme beaucoup l'avaient remarqué, les 3 ouvrages étaient si différents qu'il s'avérait difficile de les imaginer issus de la même plume. Un phénomène plutôt curieux, mais qui n'avait pas empêché Jasper Gwine de devenir, un peu de temps, un écrivain reconnu par le public et respecté par une grande partie de la critique. Son talent pour raconter des histoires était d'ailleurs indéniable, et la facilité avec laquelle il savait s'introduire dans la tête des gens pour transcrire leurs sentiments particulièrement déconcertante. Il semblait connaître les mots que chacun allait prononcer et deviner à l'avance les pensées de tout le monde. Il n'y a rien d'étonnant si, ces années-là, nombreux le voyaient raisonnablement promis à une brillante carrière. À l'âge de 43 ans, toutefois, Jasper Gwine écrivait pour The Guardian un article dans lequel il énumérait 52 choses qu'à compter de ce jour il ne ferait jamais plus. Et la dernière était d'écrire des livres. Sa brillante carrière était déjà finie. Le matin où l'article parut dans The Guardian, bien en évidence avec le supplément du dimanche, Jasper Gwine se trouvait en Espagne, à Grenade. Il avait jugé opportun, dans la circonstance, de mettre entre lui et le monde une certaine distance. Il avait choisi un petit hôtel, modeste au point de ne pas proposer de téléphone dans les chambres. Aussi, ce matin-là, on dut monter l'avertir qu'il y ait un appel pour lui en bas, dans le hall. Il descendit en pyjama et se dirigea à contre-cœur vers un vieux téléphone laqué jaune, posé sur une petite table en osier. Il colla le combiné contre son oreille, et la voix qu'il entendit était celle de Tom Bruce, son agent. « Hey, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jasper ?»«
Mais quelle histoire ?»«
Les 52 choses, là, je les ai lues ce matin. Lottie m'a montré le journal. J'étais encore au lit, j'ai failli faire une attaque. »«
J'aurais peut-être dû te prévenir. » »«
Ne me dis pas que c'est sérieux. Oh, c'est une provoque, un pamphlet, bon sang. Qu'est-ce que tu me fais là ?»«
Rien, c'est juste un article. Mais bon, tout est vrai. » »«
Dans quel sens ?»«
Bah, je veux dire, je l'ai écrit, sérieusement. C'est exactement ce que j'ai décidé. »
Tu es en train de me dire que tu arrêtes d'écrire?
Oui.
Mais t'es fou!
Là, je dois vraiment te laisser, là, tu sais.
Attends, une minute. Jasper, il faut qu'on en parle. Tu n'en parles pas avec moi, qui suis ton agent.
Il y a rien à ajouter, j'arrête d'écrire. Un point, c'est tout, j'arrête d'écrire.
Tu veux que je te dise, Jasper? Non, mais tu m'écoutes? Tu veux que je te dise?
Oui, je t'écoute.
Alors écoute-moi bien. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Je l'ai entendue de la bouche d'un nombre d'écrivains que tu ne peux pas imaginer. Je l'ai même entendu de la bouche de Martin Amis. Tu me crois? Cela doit faire une dizaine d'années. Martin Amis me l'a dit mot pour mot. J'arrête d'écrire. Et ce n'est qu'un exemple. Mais bon, je pourrais t'en donner 20. Tu veux que je te dresse la liste?
Je pense pas que ce soit nécessaire, non.
Et tu sais quoi? Il n'en est pas un qui est vraiment arrêté. C'est impossible d'arrêter.
D'accord, ok. Mais là, je dois vraiment te laisser, là, Tom.
Pas un.
D'accord, ok.
Eh ben, l'article, en tout cas. Hein.
Merci.
Un vrai pavé dans la mare.
Ne dis pas cette phrase, je t'en prie.
Quoi?
Bah rien. Allez, je te laisse, c'est bon maintenant.
Je t'attends à Londres, hein? Quand est-ce que tu rentres? Lottie serait super contente de te voir.
Mais je vais raccrocher, Tom.
Jasper, vieux frère, tu ne me fais pas de blagues.
J'ai raccroché, Tom.
Cette dernière phrase, toutefois, il l'a dit après avoir raccroché. Donc Tom Bruce ne l'entendit point. Dans le petit hôtel andalou, Jasper Gwynne demeura, paisiblement, durant 62 jours. Au moment de régler sa note, il avait en frais supplémentaires 62 tasses de lait froid, 62 verres de whisky, 2 appels téléphoniques, une facture de teinturerie plutôt salée, 129 pièces, et la somme correspondante à l'achat d'un transistor, ce qui jette une certaine lumière sur ses inclinaisons. Étant donné la distance et l'isolement durant tout son séjour à Grenade, Jasper Gwynne n'eut pas à revenir sur son article, sinon occasionnellement lui-même. Un jour, simplement, il rencontra une jeune femme slovène, avec laquelle il finit par avoir une agréable conversation, dans le jardin intérieur d'un musée. Elle était brillante et sûre d'elle. Elle parlait un anglais correct. Elle lui dit qu'elle travaillait à l'université de Ljubljana dans le département d'histoire moderne et contemporaine. Elle était en Espagne pour faire des recherches. Elle étudiait le destin d'une noble italienne qui, à la fin du XIXe siècle, parcourait l'Europe en quête de reliques. Vous savez, le trafic de reliques, à cette période-là, était le hobby d'une partie de l'aristocratie catholique.
Ah, vraiment?
Peu de gens connaissent cette histoire, mais elle est fascinante.
Racontez-moi.
Ils dînèrent ensemble, et au dessert, après avoir longuement disserté sur les tibias et les phalanges des martyrs, la femme slovène se mit à parler d'elle, en particulier de la chance qu'elle estimait avoir d'exercer le métier de chercheuse, métier qu'elle trouvait très beau. Elle ajouta que, naturellement, tout ce qui gravitait autour de ce métier était terrifiant. Les collègues, les ambitions, la médiocrité, l'hypocrisie, tout. Mais elle dit aussi que dans son cas, 3 malheureux individus ne suffiraient pas à lui faire passer l'envie d'étudier et d'écrire.
« Je me réjouis de vous l'entendre redire »,
commenta Jasper Gwynne. Alors la femme lui demanda quel était son métier à lui. Jasper Gwynne hésita un petit peu, puis finit par énoncer un demi-mensonge. Il dit que pendant une douzaine d'années, il avait été décorateur, mais que depuis 2 semaines, il avait arrêté. La femme sembla déçue et lui demanda pour quelle raison il avait abandonné un travail qui devait être si agréable. Jasper Gwynne fit un vague geste en l'air, puis il prononça une phrase incompréhensible.
Un jour, je me suis aperçu que plus rien ne m'importait et que tout me blessait mortellement.
La femme sembla intriguée, mais il parvint habilement à dévier la conversation sur d'autres thèmes, glissant latéralement vers la manie de mettre de la moquette dans les salles de bain, puis s'attardant sur la suprématie des civilisations méridionales qui vient de ce qu'elles connaissent le sens exact du mot « lumière ». Très tard ce soir-là, ils se saluèrent, mais ils le firent si lentement que la jeune femme slovène eut le temps de trouver les mots appropriés pour dire qu'ils auraient été bien, cette nuit, de la passer ensemble. Jasper Gwine n'était pas aussi sûr, mais il l'a suivi dans sa chambre d'hôtel. Puis, mystérieusement, il ne s'avéra pas compliqué de conjuguer dans un lit andalou sa hâte à elle et sa prudence à lui. Deux jours plus tard, quand la femme slovène partit, Jasper Gwine lui laissa une liste élaborée par ses soins de 13 marques de whisky écossais. Qu'est-ce que c'est ?
De jolis noms, je t'en fais cadeau.
Jasper Gwine resta à Grenade encore 16 jours. Puis il s'en alla à son tour, oubliant dans le petit hôtel 3 chemises, une chaussette dépareillée, une canne avec un pommeau en ivoire, un bain moussant au santal et 2 numéros de téléphone inscrits au feutre sur le rideau en plastique de la douche. De retour à Londres, Jasper Gwine passa ses premières journées à marcher dans les rues de la ville de façon prolongée et obsessionnelle, avec la délicieuse conviction d'être devenu invisible. Comme il avait cessé d'écrire, il avait cessé dans son esprit d'être un personnage public. Il n'y avait plus de raison que les gens le remarquent, maintenant qu'il était redevenu un quidam. Il se mit à s'habiller sans réfléchir et recommença à faire 1000 petites choses sans se soucier d'être présentable au cas où, à l'improviste, un lecteur le reconnaîtrait. Sa position au comptoir du pub, par exemple. Prendre le bus sans billet. Manger seul à McDonald's. De temps en temps, quelqu'un le reconnaissait quand même, alors il niait être qui il était. Il y avait un tas d'autres choses dont il ne devait plus se préoccuper. Il était comme un de ces chevaux qui, débarrassés de leurs écuyers, reviennent en arrière, perdus au petit trot, tandis que les autres sont encore à se démener pour atteindre la ligne d'arrivée avec un classement quelconque. Le plaisir généré par cet état d'âme était infini. Quand il tombait par hasard sur un article de journal ou une vitrine de librairie qui lui rappelait la bataille dont il venait de se retirer, il sentait son cœur devenir léger et éprouver l'ivresse enfantine des samedis d'après-midi. Il ne s'était pas senti aussi bien depuis des années. C'est aussi pour cela qu'il tarda un peu à prendre la mesure de sa nouvelle vie, prolongeant cette intime sensation de vacance. L'idée qui avait mûri durant son séjour en Espagne était de revenir au métier qu'il exerçait avant de publier des romans. Cela ne serait pas difficile ni désagréable. Il y voyait même une certaine élégance formelle, une sorte de balancement poétique, comme dans une ballade. Rien cependant ne le poussait à précipiter ce retour, car Jasper Gwine vivait seul, n'avait pas de famille et dépensait peu. En définitive, il pourrait vivre tranquillement au moins 1 an ou 2 sans même avoir à se lever le matin. Ainsi, il prit son temps et se consacra à des gestes fortuits et des affaires sans cesse reportées jusqu'alors. Il jeta ses vieux journaux, prit des trains pour des destinations vagues. Toutefois, au fil des jours, il commença à sentir peser sur ses épaules une forme singulière de malaise, qu'il peina à comprendre au début et qu'il apprit à identifier seulement au bout de quelque temps. Même s'il était ennuyeux de l'admettre, le geste de l'écriture lui manquait. Et avec lui, l'effort quotidien pour mettre en ordre ses pensées sous la forme rectiligne d'une phrase. Il ne s'y attendait pas, et cela le fit réfléchir. C'était comme une petite démangeaison qui survenait chaque jour et promettait d'empirer. De fil en aiguille, Jasper Gwine se demanda s'il n'y avait pas lieu de passer en revue des métiers marginaux dans lesquels il pourrait cultiver la pratique de l'écriture, sans que cela implique nécessairement un retour immédiat aux 52 choses qu'il s'était promis de ne plus jamais faire.
« Des guides de voyage ?»
se dit-il. « Mais il lui faudrait voyager. » Il pensa à ceux qui écrivaient les modes d'emploi pour les appareils électroménagers. Il se demanda s'il existait encore, quelque part dans ce monde, ce métier consistant à écrire des lettres pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire.
« Traducteur. Mais quelle langue ?»
Pour finir, la seule réponse de Claire qui lui vient à l'esprit tenait en un mot.
Copiste.
Ça lui aurait bien plu d'être copiste. Ce n'était pas un vrai métier, il en était conscient, mais il y avait une étincelle convaincante dans ce mot, qui lui donnait l'impression de chercher quelque chose de précis. Il y avait un secret dans le geste et une patience dans la méthode. Un mélange de modestie et de solennité. Copiste, il ne voulait pas faire autre chose. Et il était sûr de pouvoir le faire très bien. S'efforçant d'imaginer ce qui pouvait bien, dans le monde réel, correspondre au terme de copiste, Jasper Gwine laissa glisser sur lui plusieurs jours, l'un après l'autre, de façon apparemment indolore, presque sans s'en apercevoir. De temps en temps, il recevait des contrats à signer, pour des livres qu'il avait déjà écrits. Renouvellement, nouvelle traduction, adaptation théâtrale. Il les laissait sur son bureau et pour finir, il lui apparut évident qu'il ne les signerait jamais. Avec un certain embarras, il découvrit que non seulement il ne voulait plus écrire de livres, mais pire, il aurait voulu ne pas en avoir écrit du tout. Enfin, il avait eu du plaisir à le faire, mais il ne souhaitait nullement que ses textes survivent à sa décision d'arrêter. Et même l'idée que ces derniers puissent avoir une vie, une force propre, dans un monde auquel lui avait définitivement tourné le dos, l'agaçait. Il commença à jeter les contrats sans les lire. Tom lui faisait parfois suivre des courriers d'admirateurs qui le remerciaient poliment pour telle page ou telle histoire en particulier. Cela aussi l'irritait, et il ne manquait jamais de remarquer qu'aucun d'eux ne faisait allusion à son silence. Il ne semblait pas en avoir été informé. Une fois ou deux, il se donna la peine de répondre. Il remerciait à son tour, avec des mots simples, puis il signalait qu'il avait arrêté d'écrire, et saluait. Il nota qu'à ses lettres, personne ne répondit. De plus en plus souvent, cependant, ce besoin d'écrire le reprenait, avec la nostalgie de cet effort quotidien pour mettre en ordre ses pensées sous la forme rectiligne d'une phrase. De façon instinctive, alors, il finit par compenser ce manque par un rituel privé de son invention, qui ne lui sembla pas dépourvu d'une certaine beauté. Il se mit à écrire mentalement. Pendant qu'il marchait, ou allongé sur son lit, lumière éteinte en attendant le sommeil, il choisissait des mots construisant des phrases. Il lui arrivait de suivre une idée plusieurs jours d'affilée, écrivant dans sa tête des pages entières qu'il aimait se répéter, quelquefois à voix haute. Il aurait pu tout aussi bien faire craquer ses doigts ou enchaîner des exercices de gym, toujours les mêmes. C'était un truc physique, il aimait ça. Une fois, il se surprit à écrire, de cette façon, toute une partie de poker. L'un des joueurs était un enfant. Mais il aimait particulièrement écrire quand il était à la laverie. Au milieu des tambours qui tournaient, au rythme des magazines feuilletés distraitement sur les jambes croisées de femmes qui ne semblaient cultiver d'autre illusion que la finesse de leurs chevilles. Un jour, il était en train d'écrire mentalement un dialogue entre deux amants dans lequel l'homme expliquait que depuis l'enfance, il avait l'étrange faculté de rêver des gens seulement s'ils dormaient avec eux. « Tu veux dire que tu ne rêves que de ceux qui sont dans ton lit ?» demandait la femme.
« Oui. »
« C'est quoi cette connerie ?»«
Je sais pas. »
« Si la personne n'est pas dans ton lit, tu ne rêves pas d'elle ?»«
Jamais. »
À cet instant, une jeune fille corpulente s'était approchée, plutôt élégante, là, dans la laverie, et lui avait tendu un téléphone portable. « C'est pour vous ?» Jasper Gwine avait pris le téléphone. « Jasper, tu as mis de l'adoucissant ?»«
Salut, Tom. »«
Je te dérange ?»«
J'étais en train d'écrire. »«
Bingo !» !»«
Non, pas dans ce sens.
»« Pour moi, il n'y a pas 36 sens. » Quand on est écrivain, on écrit, et puis c'est tout. Je te l'avais dit, personne n'arrive vraiment à arrêter.
Tom, je suis dans une laverie automatique.
Je sais, tu y es toujours fourré, et chez toi, tu ne réponds pas.
On n'écrit pas de livres dans les laveries. Voyons, et puis quand bien même, c'est pas moi qui les écrirais.
Foutaise, allez vite ton sac. C'est quoi? Une nouvelle? Son linge était encore au pré-lavage, et personne ne feuilletait de magazine autour de lui. Aussi, Jasper Gwine se dit qu'il pouvait tenter de lui expliquer. Il raconta à Tom qu'il aimait juxtaposer des mots et assembler des phrases. Mais comme il pourrait faire craquer ses doigts, il le faisait dans l'ombre de son esprit. Ça le relaxait. « Fantastique ! Je te rejoins. Tu parles, j'enregistre et le livre est fait. Tu ne serais pas le premier à utiliser un tel procédé. » Jasper Gwine lui expliqua qu'il n'y avait pas d'histoire, que ce n'était que des fragments, sans début ni fin. Parler de scène, c'était déjà beaucoup. « Génial ! J'ai le titre. »«
Non, me dis pas. »
Scène de livre que je n'écrirai jamais.
Tu me l'as dit.
Ne bouge pas, je règle deux petites choses et j'arrive.
Tom...
Ouais, je t'écoute, mon frère.
Mais qui c'est que cette fille-là, si élégante?
Rebecca, c'est une nouvelle recrue, très efficace.
Et elle fait quoi, à part livrer des téléphones portables dans les laveries?
Elle est en apprentissage. Il faut bien commencer par quelque chose. Jasper Gwine ne pensa que s'il y avait un point négatif dans le fait d'avoir abandonné l'écriture... c'était qu'il n'aurait plus aucune raison de travailler avec Tom. Il comprit qu'un jour, ce dernier cesserait de le poursuivre avec ses appels téléphoniques, et que cela serait un triste jour. Il se posa la question de le lui dire. Là, à la laverie. Non, finalement, une meilleure idée lui vint. Il referma le téléphone et fit signe à la jeune fille corpulente qui s'était éloignée de quelques pas par politesse. Il nota qu'elle avait un très beau visage. Pour le reste, elle limitait les dégâts en s'habillant avec goût. Il lui demanda s'il pouvait lui laisser un message à l'attention de Tom. Oui, bien sûr.
Alors vous serez bien aimable de lui dire qu'il va me manquer.
Oui, bien sûr.
Je veux dire que tôt ou tard, il ne sera plus sur mes talons où que j'aille. Et alors, j'éprouverai un grand soulagement, comme lorsque dans une pièce, le moteur du réfrigérateur s'éteint. Mais en même temps, ce désarroi inévitable. Et la sensation que vous connaîtrez sûrement un jour, de ne pas savoir exactement quoi faire de ce silence impromptu. Et peut-être au fond de ne pas en être à la hauteur. Vous pensez avoir compris ?
Je n'en suis pas sûre.
Vous voulez que je répète ?
Je devrais peut-être prendre des notes ? Jasper Gouin ne secoua la tête.
Trop compliqué.
Il rouvrit le portable. La voix de Tom retentit. Comment fonctionnaient exactement ces engins ? Il ne le comprendrait jamais.
Tom, tais-toi un peu.
Jasper ?
Je voudrais te dire une chose.
Vas-y. Il lui dit cette chose, avec l'histoire du réfrigérateur et tout le reste. Tom Bruce toussa un coup et se tut quelques secondes, ce qu'il ne faisait jamais. Ensuite, la jeune fille s'en alla avec cette façon un peu chaloupée qu'ont les gros de se mouvoir. Mais avant, elle sourit à Jasper pour le saluer avec une lumière radieuse dans les yeux. Dans les yeux. Ses lèvres splendides et ses dents blanches. Toutefois, l'hiver lui sembla inutilement long cette année-là. Et le fait de se réveiller tôt le matin sans pouvoir se rendormir, l'obscurité aux fenêtres, se mit à l'oppresser. Un jour de froid et de pluie, il se retrouva assis dans la salle d'attente d'un dispensaire, un petit numéro à la main. Il avait convaincu le médecin de lui prescrire des examens, il soutenait qu'il ne se sentait pas très bien. À côté de lui vient s'asseoir une dame avec un caddie plein à craquer et un parapluie miteux qu'elle n'arrêtait pas de faire tomber. Une dame âgée avec un foulard imperméable sur la tête. Elle le retira, au bout d'un moment, et puis dans sa façon de se recoiffer, il y avait comme le reliquat d'une séduction mise de côté depuis plusieurs années. Le parapluie continuait cependant à tomber à tout va.
« Je peux vous aider ?»
lui demanda Jasper. La dame le regarda et dit que dans tous les dispensaires, il devrait y avoir des porte-parapluies les jours de pluie. Il suffisait que quelqu'un les enlève quand le soleil revenait.
« C'est un raisonnement sensé ?»«
Bien sûr que c'est sensé !» Alors elle prit son parapluie et le posa par terre. On aurait dit une flèche ou une ligne de démarcation. Lentement, une flaque d'eau se forma autour. « Vous êtes Jasper Gouin ou c'est juste une ressemblance ?» Elle posa cette question tout en cherchant dans son sac quelque chose de petit. Elle fouillait dans le bazar et leva les yeux pour s'assurer qu'il l'avait entendue. Jasper Gouin ne s'y attendait pas et dit que, oui, il était Jasper Gouin. « Bravo !» enchaîna la vieille dame, comme s'il avait bien répondu à un quiz. Puis elle glissa que la scène sur la jetée danseur était ce qu'elle avait lu de plus beau ces dernières années.
« Merci, »
dit Jasper Gouin. Et l'incendie dans l'école aussi, au début du livre, le plus gros. Ah, il est parfait cet incendie dans l'école. Elle leva de nouveau les yeux sur Jasper. « J'ai été enseignante. » Puis elle sortit de son sac deux bonbons. Ils étaient ronds aux agrumes, pour lui en offrir un.
« Non, merci, vraiment. »«
Allons, ne soyez pas stupide. » Il sourit et prit le bonbon. « Ce n'est pas parce qu'ils étaient éparpillés au fond de mon sac qu'ils sont dégoûtants. »
« Non, 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 bien sûr. »
« Pourtant, j'ai remarqué que les gens ont tendance à le croire. » Jasper Gouin pensa que c'était parfaitement exact. Les gens se méfient d'un bonbon trouvé au fond d'un sac.
« Je crois que c'est comme avec les orphelins. On se méfie toujours un peu. »
La vieille dame se tourna pour le regarder étonnée. « Ou la dernière voiture du métro, » renchérit-elle avec une étrange allégresse dans la voix. C'était comme s'ils avaient été ensemble sur les bancs de l'école et qu'ils égrenaient maintenant les noms de leurs anciens camarades de classe, les faisant ressurgir de la nuit des temps. Un moment de silence passa entre eux comme un enchantement. Puis ils se remirent à bavarder, et lorsqu'une infirmière vient annoncer que c'était au tour de Mr. Gouin, Jasper Gouin dit que là, tout de suite, il ne pouvait vraiment pas. « Vous allez perdre votre tour, » avertit l'infirmière.
« Ça ne fait rien, je peux repasser demain. »«
Comme vous voulez, » jeta froidement l'infirmière. Alors elle appela à haute voix un certain Mr. Flower. Pour la dame au parapluie, la chose semblait tout à fait normale. Finalement, ils se retrouvèrent seuls dans la salle d'attente. Et alors, la vieille dame décida qu'il était grand temps de partir. Jasper Gwynne lui demanda si elle ne devait pas faire un examen ou quelque chose de ce genre. Mais elle répondit qu'elle venait là parce qu'il faisait chaud et que c'était exactement à mi-chemin entre le supermarché et chez elle. En outre, elle aimait bien regarder le visage des gens qui s'apprêtent à faire un bilan sanguin à jeun. « On a l'impression qu'on leur a volé quelque chose, » dit-elle.
« C'est vrai. »
Il la raccompagna chez elle en lui tenant son parapluie ouvert. Pas question de lâcher son caddie. Et dans la rue, ils continuèrent à parler jusqu'à ce que la dame lui demanda ce qu'il était en train d'écrire en ce moment. Et qu'il réponde.
« Rien. »
La dame fit quelques pas, silencieuse, puis dit « Dommage !» Elle le dit sur un ton de regret tellement sincère que Jasper Gwynne s'en trouva presque peiné. « À court d'idées ?»«
Oh non, 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 ça non. »«
Et alors ?»«
Bah, j'aimerais faire un autre métier. »«
Ah, quel genre de métier ?»«
Je crois que j'aimerais être copiste.
» La dame réfléchit un petit peu, puis elle se remit à marcher. « Ah, je peux comprendre. »«
Vraiment ?»«
Oui, c'est un beau métier, copiste.
Bah, »« C'est ce que j'ai pensé, oui. »«
Un métier noble, oui. » Ils se saluèrent sur les marches qui menaient chez elle, et à aucun des deux il ne vint à l'esprit d'échanger un numéro de téléphone ou de faire allusion à une prochaine fois. Simplement, à un moment donné, elle avoua sa déception de savoir qu'elle ne lirait plus de livres de lui. Elle ajouta que tout le monde n'était pas capable de s'introduire dans la tête des gens comme il le faisait, et que ce talent, il serait dommage de le mettre au garage pour le lustrer une fois par an, comme une petite spider d'époque. Ce furent ses mots, comme une petite spider d'époque. Elle sembla avoir fini, mais en réalité, elle avait encore quelques recommandations en réserve. « Copiste, cela consiste à copier des choses, non ?»«
Probablement, oui. »«
Bien, mais pas des actes notariés ou des chiffres, je vous prie. »«
J'essaierai d'éviter, donc j'essaie, oui. »
« Essayez de voir si vous ne pouvez pas, par exemple, copier les gens. »«
Ah oui. »«
Tels qu'ils sont. »«
Oui. »«
Vous y arriverez très bien.
Bon. »
Un an et demi peut-être, s'était écoulé depuis l'article dans The Guardian, quand Jasper Gwynne commença à aller mal. Par moments, d'une façon qui lui arriva de décrire comme une absence soudaine. Brusquement, il se voyait de l'extérieur. C'est ce qu'il racontait. Ou ne percevait plus rien de précis en dehors de lui-même. Parfois, cela prenait des proportions impressionnantes. Un jour, il dut entrer dans une cabine téléphonique pour composer non sans difficulté le numéro de Tom. Il lui dit en bredouillant qu'il ne savait plus où il était. « Pas de panique, j'envoie Rebecca à te chercher. T'es où ?»«
C'est bien ça le problème, Tom. »
Pour finir, la jeune fille corpulente sillonna tout le quartier en voiture jusqu'à ce qu'elle le trouve. Pendant ce temps, Jasper Gwynne était resté dans la cabine, serrant spasmodiquement le combiné, en essayant de ne pas mourir. Pour se distraire, il parlait au téléphone. Il improvisa un appel de protestation contre l'interruption de la distribution d'eau. Personne ne l'avait prévenu et cela lui avait occasionné des dommages économiques et moraux énormes. Il répétait en boucle.
« Dois-je attendre qu'il pleuve pour me faire un shampoing ?»
Il se sentit tout de suite mieux dès qu'il monta dans la voiture de la jeune fille corpulente. Tandis qu'il s'excusait, il ne pouvait s'empêcher de fixer ses mains replètes qui serraient, mais le verbe n'était pas adapté, le volant sport. Il n'y avait pas de cohérence, pensa-t-il, et cela devait être l'expérience qu'à chaque instant de la journée cette jeune fille faisait de son propre corps. Il n'y avait pas de cohérence entre ce dernier et tout le reste. Mais elle sourit, de son beau sourire, et dit qu'au contraire, elle était honorée de pouvoir lui venir en aide. Et en plus, elle ajouta, ça lui était aussi arrivé. Elle avait connu une période où elle s'était souvent trouvée mal, comme lui.
Tout d'un coup, vous pensiez être sur le point de mourir ?
Oui.
Et comment avez-vous guéri ?
Demanda Jasper Gwynne, qui, au point où il en était, se serait lancé dans n'importe quelle thérapie. La jeune fille sourit à nouveau, puis resta un instant silencieuse en regardant la route. Non, en fait, ce sont des choses personnelles.
Oui, oui, bien sûr.
Elle s'enroulait. Le bon verbe était probablement celui-ci. Elle s'enroulait autour du volant sport. Les jours suivants, Jasper Gwynne s'efforça de garder son calme et pour tenter de trouver un remède aux crises qui se faisaient de plus en plus fréquentes, il s'adonna à un exercice qu'il se rappelait avoir vu dans un film. Cela consistait à vivre lentement. en se concentrant sur chaque geste. Cette règle peut sembler assez vague, mais Jasper Gwine avait une façon de l'observer qui le rendait étonnamment tangible. Ainsi, avant d'enfiler ses chaussures, il les regardait, en évaluait la grande légèreté et appréciait la souplesse du cuir. En les laçant, il évitait de se laisser aller à un geste automatique et observait dans le détail la splendide exécution de ses doigts, suivant une technique harmonieuse dont il admirait l'assurance. Puis il se levait, et dès ses premiers pas, il ne manquait pas de noter l'ajustement parfait de la chaussure sur le coup de pied. De la même manière, il se concentrait sur les bruits auxquels d'habitude on ne prête pas attention. Redécouvrant le cliquetis d'une serrure, le crissement du scotch ou le vulgaire sifflement métallique d'une fermeture éclair. Il passa un temps fou à s'imprégner des couleurs. Même quand cela n'avait aucune utilité, et en particulier, il s'attachait à admirer les compositions aléatoires engendrées par l'agencement des choses entre elles. Que ce soit à l'intérieur d'un tiroir ou sur l'espace d'un parking. Souvent, il comptait les objets et les sons qui l'entouraient. Marche d'escalier, réverbère, cris, et parcourait de ses mains toutes les surfaces, explorant l'infini compris entre le rugueux et le lisse. Il s'arrêtait pour regarder les ombres par terre. Il faisait rouler chaque pièce de monnaie entre ses doigts. Tout cela donnait à ses mouvements quotidiens une allure somptueuse, une allure d'acteur ou d'animal africain. Dans sa lenteur élégante, les autres croyaient reconnaître le temps naturel des choses, et dans la précision de ses gestes, affleurait une autorité sur les objets que beaucoup avaient oubliés. C'est à peine si Jasper Gwine s'en apercevait. En revanche, il était clair que pour lui, que cette vie minutieuse lui permettait de retrouver un certain équilibre. Ce centre de gravité qui manifestement avait fini par lui manquer. Cela dura environ 2 mois. Puis, fatigué, il reprit sa vie habituelle. Mais aussitôt cet état d'évanescence redouté le rattrapa, et sans possibilité de se défendre, un sentiment de vide incurable l'assaillit. D'ailleurs, cette attention excessive dans son appréhension du monde, cette façon de lacer ses chaussures, n'était en définitive pas si éloignée du fait d'écrire les choses au lieu de les vivre. De s'attarder sur les adjectifs et les adverbes, et ainsi, Jasper Gwine dut admettre au fond de lui que l'abandon des livres avait créé un vide dans sa vie qu'il ne savait combler sinon à travers des rituels substitutifs imparfaits et provisoires, comme le fait d'assembler des phrases dans son esprit ou de lacer ses chaussures avec une lenteur idiote. Il avait mis des années à admettre l'idée qu'écrire lui était devenu impossible. Et maintenant, il se trouvait forcé de constater que sans ce métier, il lui était très difficile d'aller de l'avant. Il finit donc par comprendre qu'il était dans une situation que partagent beaucoup d'êtres humains, mais pas moins douloureuse pour autant, à savoir la seule chose qui nous fait sentir vivants est aussi ce qui, lentement, nous tue. Les enfants pour les parents, le succès pour les artistes, les sommets trop élevés pour les alpinistes. Écrire des livres pour Jasper Gwine.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Et bien voilà, c'était l'émission lue et approuvée qui se termine. Donc ce soir, nous vous avons lu Mr. Gwine, G-W-Y-N, écrit par Alessandro Barrico. On vous avait déjà lu un ouvrage de cet auteur, c'était Novecento, une émission que vous retrouverez sur notre site internet. Donc c'est notre blog, lueetapprouvé.noblogs.org. Lui est approuvé, tout attaché sans accent, .noblogs.org. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par mail à lueetapprouvé@guyade.org, Guyade, G-W-I-A-D. Et si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez aussi le faire par courrier. Émission Lui est approuvé, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse. Vous pouvez nous proposer des lectures ou venir lire des bouts de texte avec nous. Vous pouvez retrouver également les podcasts sur Canal Sud, www.canalsud.net. Et on vous rappelle qu'à partir de cette semaine, on vous lira des textes toutes les 2 semaines seulement. Voilà.
Et bah bonne soirée à toutes et à tous et à dans 2 semaines.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.